Tu la mets cette photo ? Pas trop l'air d'un con ?
C'était peut-être habituel.
Oh, j'aurais mieux fait d'aller bouffer du homard chez les Ruby School.
Manuel disparaît dans ta chambre immédiatement.
Les soirs, la même histoire.
Drame familial, ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture, il sera question de tennis, de championnat, de chômage, de chaussures, de conflits générationnels et même de gratin de courgettes avec Olivier Gourmet à l'affiche de Terre battue, le film de Stéphane de Moustier, nouveau rôle de père pour celui qui fut prix d'interprétation à Cannes pour le fils des frères d'Ardenne, Manu Farine.
Portrait d'un acteur hyperactif pour qui le jeu passe d'abord par le corps, ce qui fait dire au cinéaste Bruno Podalides qu'il est le seul acteur américain que nous ayons.
19h30, et bien l'Amérique sera au programme de la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne, puisque ce soir il sera question de la rétrospective John Ford à la Cinémathèque de Paris. 19h35, plateau classe moyenne avec Stéphanie Cléo qui met en scène Le moral des ménages, une adaptation théâtrale du roman d'Éric Reinhardt, ou comment porter sur scène une histoire de la société française, Lucille Comeau.
Portrait d'une artiste passée par l'école du paysage et qui travaille l'espace scénique avec un souci cinématographique du montage.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez qui s'ouvre comme chaque jour, sur le son du jour.
Là, je pense qu'ils vont me foutre en tôle. Remarquez, je serais bien reçu, là-bas, j'ai quand même un certain public aussi en prison. Là, ils s'interrogent. Je veux dire, allez voir le spectacle de Dieudonné, est-il moral ? Ce sera bientôt un sujet du bac.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, il ne date pas d'hier.
Non, alors c'est le début, tout début, ça ouvre le spectacle de Dieudonné, La Bête Immonde, spectacle écrit après l'interruption de la tournée de son précédent spectacle, Le Mur, interdit car accusé de contenir des références négationnistes, qu'il avait lui-même d'ailleurs renoncé tout seul à jouer. Ce nouveau spectacle donc s'apprête à entamer en 2015 une tournée dans toute la France. Et aujourd'hui, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, se dit extrêmement inquiet et choqué qu'une vingtaine de salles offrent une tribune à Dieudonné, plusieurs fois condamné pour antisémitisme, et demande, et notamment se dit particulièrement choqué par le groupe Vega, qui est propriété de Fimalac, un des acteurs majeurs des exploitants de salles, qui est aussi, je le rappelle, un des favoris à la reprise de la salle Pleyel, qui met donc à disposition de Dieudonné 7 salles, dont plusieurs zéniths en province, soit 30% des dates de sa tournée. Dieudonné n'est plus un humoriste depuis longtemps, constate le CRIF, ses spectacles sont devenus des meetings politiques, il ne respecte donc pas l'esprit des obligations imposées par l'État et les collectivités territoriales aux exploitants de salles dans leur cahier des charges. Il demande donc à la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, d'agir sans tarder auprès des exploitants.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. En ce moment, plusieurs centaines de metteurs en scène, chorégraphes, compagnies de théâtre sont réunis actuellement, là, en ce moment, au Théâtre National de la Colline à Paris, à l'appel du Syndéac, c'est le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles.
Oui, alors ils y sont tous, puisque ça commençait à 17h30 et c'est en train de se terminer. Les acteurs du spectacle vivant conventionné qui lancent donc cet appel de la Colline avec le mot d'ordre pas le culture sans artistes. Ça rappelle un petit peu ce qu'avait fait le monde de la presse et du journalisme qui avait lancé il y a 6 ans toujours un appel de la Colline au Théâtre de la Colline. Alors dans cet appel-là, déjà signé par des dizaines et des dizaines de créateurs, Mathieu Amalric, Emmanuel Béart, Maggie Marin, Stanislas Nordet et j'en passe, le Syndéac rappelle que si, après 3 ans de baisse, le budget de la culture stagne cette année, l'État a largement baissé les dotations des collectivités territoriales. On l'a vu ces derniers temps, avec le cas notamment des musiciens du Louvre de Grenoble, de beaucoup de festivals aussi, avec un automne en Normandie. Et pour Madeleine Louarn, metteuse en scène et présidente du Syndéac, la politique culturelle subventionnée est aujourd'hui à un tournant critique. Écoutez-la.
Il y a une sorte de conjonction d'actualité entre les réformes territoriales et la fin de la mission à 3 médiateurs autour de l'intermittence. Et on est en plein dans le début des discussions de la réforme, de la nouvelle organisation de l'État à travers les régions, les départements, les villes. Et donc, dans cette nouvelle loi et dans cette nouvelle composition des pouvoirs, la question culturelle et de l'art et de la culture est très mal encadrée. Et devant les difficultés économiques que nous accumulons depuis des années, et dans une tension sociale, on le voit à travers Exhibit B, à travers les pressions que subissent un certain nombre de directeurs de structures, on se retrouve dans une situation intenable. C'est-à-dire qu'on a un effritement et un dispositif, un système de création, de soutien à la création en France qui est en train de s'asphyxier et qui risque de disparaître à travers tous ces écueils.
Mais au-delà de ces inquiétudes réelles sur les moyens de plus en plus limités de la culture subventionnée, c'est la dimension politique de cette baisse des subventions qui est dénoncée.
Oui, parce qu'au-delà de la baisse du budget lié à la culture que tout le monde comprend en raison de la crise économique, c'est le manque de volonté politique à l'endroit de la culture qui est montré du doigt. Comme l'explique Arnaud Meunier, il est metteur en scène, directeur de la Comédie de Saint-Étienne et co-président de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux.
La mobilisation d'aujourd'hui, elle est bien au-delà d'une question de subvention ou d'une question d'immission de moyens. Je pense qu'il y a un ras-le-bol global de nos professions et surtout un désespoir de voir le peu d'ambition pour l'art et la culture dans notre pays de la part d'un gouvernement qu'on a fortement contribué à faire élire. D'autant que là, on n'est pas dans une mobilisation corporative. Je pense que la mobilisation de ce soir à la colline, elle est clairement dans une volonté de porter un projet de société. Parce que l'ensemble des artistes et des professionnels de la culture que nous sommes, sommes au quotidien en contact avec les associations, avec les écoles, avec les quartiers. Et donc ce qu'on défend, c'est avant tout un projet de société. On n'en peut plus d'être vécu comme des privilégiés, comme un luxe, comme un archaïsme, quelque chose que la France ne pourrait plus se payer. Et je pense que c'est tout le contraire. Je pense que la spécificité française, c'est d'avoir eu l'audace de défendre une politique artistique et culturelle ambitieuse. C'est quelque chose qu'on nous envie dans le monde entier.
Voilà, alors l'appel de la Colline est à retrouver sur le site du Syndéa, qu'il reste possible de le signer dans les jours qui viennent. Les signataires attendent évidemment une prise de position claire de la ministre de la Culture, dont on attend de toute façon une prise de parole au moment de la fin de la concertation autour de l'intermittence.
Peut-être des réactions de la part de nos invités autour de la table. Olivier Gourmet, Stéphanie Cléo. Stéphanie Cléo, peut-être ? Votre acteur principal, Mathieu Amalric,
oui,
est partie prenante dans cette signature.
Oui, oui, tout à fait. Mais écoutez, c'est surtout que, enfin, bon, c'est ce que disait Arnaud Meunier. Il y a aussi il y a eu tout ce débat sur l'intermittence, etc., juste avant l'été. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de débat avec un gouvernement de gauche. Enfin, je pense que la plupart des gens qui sont en train de qui ont fait cette manifestation, ce sont des gens qui ont voté pour Hollande, et voilà, donc c'est des gens qui a priori sont plutôt été favorables au régime de l'intermittence et à la culture, et c'est vrai qu'il y a une espèce de sentiment de, bah, je pense, de trahison en tout cas du gouvernement par rapport à ça. Voilà.
Olivier Gourmet, de votre côté, comment vous regardez cette situation ?
Moi, je suis citoyen belge.
Belge, oui. Bon, de la Belgique, ça ne va pas fort non plus. Hein, au niveau
non,
de la
non, c'est pas mieux. Mais chez nous, ça dure depuis un peu plus longtemps parce que la culture en région francophone, en région wallonne, chez nous, c'est très compliqué. Donc, et ça fait des années que moi, j'essaye de tirer la sonnette d'alarme et de me battre. J'entendais le mot projet de société. C'est vrai que nos hommes politiques... Je sais qu'en Belgique, un homme politique m'avait dit, vous savez, Monsieur Gourmet, quand on parle de la culture dans l'hémicycle, la moitié, les trois quarts de l'hémicycle se vident et le quart qui reste rigole. Donc c'est atterrant parce que ce qui me fait mal, moi, c'est que ces gens ne comprennent pas la nécessité et l'importance de la culture dans une société et ce qu'elle peut amener à nos enfants. Et pas qu'à nos enfants, dans la diversité, dans la curiosité, dans l'échange, dans la compréhension et dans le dialogue. C'est un vecteur pour moi essentiel et qui est ludique. Et qui est plein de création, d'imagination, et abordable et simple. Et au-delà de, justement de toutes les questions politiques, même si on peut les aborder, il n'y a plus ce discours, il n'y a plus ce protocole, etc. Donc on peut tellement faire de choses avec la culture et qu'on ne comprenne pas ça encore aujourd'hui et qu'on revienne en arrière, c'est désolant.
Au niveau de la Belgique, vous n'avez pas le sentiment que les choses, même si elles datent depuis plusieurs années, se sont crispées ces derniers temps avec le nouveau gouvernement ?
Ce crispe, c'est un débat complexe. Hein. La Belgique, c'est déjà un pays complexe. Donc, rentrer dans ce débat sur deux régions, même trois régions, la Belgique, hein. C'est un pays créé toute pièce. De toute façon, la Belgique, c'est un état fictif. Il y a eu une émission télévisée un jour sur la séparation fictive de la Belgique.
Exactement.
Tout le monde y a cru.
C'est un état de fiction. Trois régions comme ça, avec trois langues différentes, c'était très compliqué dès le départ, mais ça a réussi tout un moment. Il y avait cette solidarité qui faisait que, et qui a généré plein de choses magnifiques, hein, notamment au niveau de l'identité culturelle. Qu'est-ce que la culture belge, etc. Chaque patrie est coupée de son cordon ombilical. Nous, francophones, notre mère matrice est la France, on nous coupe le cordon ombilical. Les néerlandophones, plus vers les pays nordiques, la Hollande et la région germanophone, l'Allemagne. Et avec ces trois régions, on en fait une. Et tout était permis parce qu'il n'y avait plus l'héritage à porter. Et donc les portes étaient ouvertes à la création et à créer une nouvelle identité. Donc ça a apporté des choses magnifiques. Mais aujourd'hui, bon, ben encore une fois, c'est pour des bêtises, hein, la Belgique. Ce n'est qu'une question de solidarité et d'échange d'argent entre les communautés. Et une communauté ne veut plus que son argent aille à l'autre communauté parce que cette communauté est considérée plus paresseuse. Ce n'est que ça. Hein. Le fond du problème, ce n'est que ça. C'est idiot. C'est ridicule. C'est comme si demain, en France, on disait on ne veut plus de la Creuse parce que la Creuse, elle ne nous rapporte rien. Elle nous coûte de l'argent. Donc, exit la Creuse.
C'est un programme politique assez alléchant. Non, je plaisante.
Mais voilà, mais c'est ça la Belgique aujourd'hui. Hein. C'est... Et nous, on a le Front National au gouvernement. Hein. Enfin, le Front National, la NVA, qui est l'équivalent du Front National et qui tire les ficelles. Donc moi, je me suis demandé à un moment donné si j'allais pas demander ma citoyenneté française et quitter la Belgique.
Vous vous êtes vraiment posé la question ?
Oui, vraiment. Vraiment, il y a tout un moment où je me disais si, en tout cas, si. Mais alors, je suis lâche et hypocrite parce que je disais si Bart De Wever devient Premier ministre, je peux pas. Je ne peux pas cautionner ça. Je ne l'ai pas cautionné, je n'ai pas voté pour lui, mais en ne faisant rien, en restant chez moi, est-ce que je ne cautionne pas d'une certaine façon ? Qu'est-ce que je fais ? Donc, alors, c'était une position lâche, c'était de fuir en France pour éviter le problème. Donc, voilà, j'attends de voir, on verra. Mais j'y ai pensé, oui, j'y ai pensé sincèrement.
Et tout de suite, on poursuit ce journal de la culture avec les brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec le prix 2014 de la presse diplomatique décerné aujourd'hui au journaliste indépendant Harold Thibault, 30 ans basé en Chine, pour sa série d'enquêtes sur la lutte anticorruption menée sous le président Xi Jinping. Il a notamment réalisé un reportage sur les intérêts des plus hauts dirigeants chinois dans le pétrole et sur la place des enfants des hauts cadres du parti auprès des grandes bandes d'affaires internationales.
Nomination de Martial Difonzobo à la direction de la Comédie de Caen, Centre dramatique national de Normandie.
Le comédien est metteur en scène franco-argentin, membre fondateur de la compagnie Le Théâtre des Lucioles. À sa sortie de l'école du Théâtre National de Bretagne, il a beaucoup travaillé aussi sur les écritures contemporaines et puis aussi au cinéma et à l'opéra. Son projet pour la Comédie de Caen est marqué par la présence d'un collectif d'artistes qui réunit 6 auteurs, metteurs en scène et comédiens associés. Élise Vigier, David Lescaut, Lucie Berelowitz, Guillermo Pisani, Pierre Maillet, Laetitia Guédon. Les textes contemporains d'auteurs vivants seront à l'honneur avec notamment Léonora Miano et Leslie Kaplan.
Le Muséum d'Histoire Naturelle lance un appel aux dons pour acquérir 3 spécimens minéralogiques.
Ça va. Appel aux dons lancé que le musée en rouvre notamment une partie de sa galerie de minéralogie avec une exposition événement Trésor de la Terre. Le musée souhaite d'ailleurs acquérir 3 spécimens qui sont exposés dans cette exposition. Un sphalémorite de Roumanie, une bournonite des mines de Malines et un béryl de Madagascar, le tout pour 27 500 euros.
Et la dernière.
C'est une histoire de science-fiction, d'antéchrist et de marketing, et même de cinéma d'ailleurs. Une histoire qui se passe de nos jours en Russie et qui ne pourrait avoir lieu un peu nulle part ailleurs. Alors vous savez sûrement qu'il y a ce film, Le Hobbit, de la série du Seigneur des Anneaux, issue de l'œuvre de Tolkien, qui est très attendue et qui sort sur les écrans en ce moment, notamment en Russie. C'est un peu l'acmé de l'œuvre de Tolkien. Les fans sont sur le pied de guerre et les publicitaires évidemment aussi. En Russie, Tolkien a beaucoup de fans. Et donc, les personnes qui s'occupaient de faire de la pub pour la campagne de promo avait décidé de reproduire dans la ville de Moscou l'œil géant de Sauron. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Laurent. Sauron, c'est le grand méchant, l'essence du mal dans ce monde de Tolkien. Et il a donc un grand œil qui surplombe une tour dans toutes les histoires. Et donc là, ils avaient décidé de faire une attraction avec un espèce d'œil de Sauron projeté sur un écran en haut de l'une des plus hautes tours de Moscou. Donc tout était OK, les accords étaient là, les fans avaient même pris des billets pour aller la visiter. Sauf que ça n'a pas plu à l'église orthodoxe. Le responsable de la section des relations extérieures de l'église russe orthodoxe, le père Svevolod Chaplin, s'est donc opposé à l'installation de ce symbole, je cite, démoniaque. Un tel symbole du triomphe du mal va s'élever sur notre ville Moscou et devenir pratiquement l'un des plus hauts objets de la ville. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? J'ai peur que ça en soit une très mauvaise. Ne soyez pas surpris si plus tard quelque chose se dérègle dans notre ville. Voilà, alors ça pourrait être drôle. Sauf que les autorités de Moscou ont décidé de prendre ça très au sérieux. Ils ont donc retiré leur accord à cette installation, qui ne sera donc pas montée. Ou comment la réalité dépasse la fiction, ou l'inverse, la fiction dépasse la réalité, on ne sait plus vraiment.
Merci Zoé Saez, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture.
19h20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau grande distribution avec vous, Olivier Gourmet, comédien, révélé en 1996 dans La Promesse des Frères Dardenne. Les Frères Dardenne dont vous êtes devenu en quelque sorte le mur porteur. On vous a retrouvé dans Rosetta, dans Le Fils, pour lequel vous recevrez le prix d'interprétation à Cannes en 2002. Et les Frères Dardenne ne sont pas très loin de Terre battue, le premier film de Stéphane Demoustier qui sortira en salle mercredi prochain puisqu'ils en sont les producteurs. Pour Terre battue, vous interprétez Jérôme, le directeur de magasin de grande distribution à Villeneuve-d'Ascq. Le film commence sur son licenciement. Il va tenter de monter sa propre société en dépit des réticences de sa femme, qui est interprétée par Valeria Bruni-Tedeschi. Et dans le même temps, son fils, Hugo, 11 ans, se révèle particulièrement doué pour le tennis et va chercher à intégrer le Centre national d'entraînement à Roland-Garros. Le film trace donc deux trajectoires parallèles, la chute d'un père, la montée d'un fils, qui vont finir par se comprendre et se rencontrer autour de la notion de transmission, de réussite et malheureusement de transgression. Bande annonce.
Je la mets cette photo, pas trop l'air d'un con.
C'était tête habituelle.
Vous avez toujours travaillé dans la grande distribution?
J'étais chef régional, je dirigeais une vingtaine de magasins. Ils m'ont mis sur la touche parce que les chiffres fléchissaient.
Vous savez, votre fils, il joue vraiment très bien.
Ça, c'est bien, Hugo, c'est bien, ça. Allez, on y va.
La nature est injuste, ce jeune homme a un cœur rare. Il va être inusable.
J'ai bien réfléchi, je pense que je vais créer ma boîte.
Mais comment ça?
J'aime ça, les supermarchés. J'aime quand les parkings sont pleins. Quand il faut fermer les portes parce que c'est les seuls.
Le haut niveau, c'est 99% de souffrance et 1% de plaisir. Le plus grand plaisir, c'est la victoire. Mais il faut parfois sortir de vos limites.
Jérôme, je vais partir.
Tu peux pas partir maintenant. Tu peux pas faire ça.
Il n'y a pas de bon moment.
Il reste plus que deux matchs et ça y est, c'est Paris après.
Vous pensez que c'est possible?
Ton père, il va comment?
Ça va. C'est lui qui va faire mon entraînement physique si je vais à Roland-Garros.
La fine équipe. Ça promet?
Loris! Loris!
Olivier Gourmet, ce n'est pas la première fois que vous jouez face à un enfant ou à un jeune adolescent. Il y avait bien sûr eu le fils ou le gamin au vélo. Qu'est-ce que ça demande en particulier en termes de jeu et de présence que de s'adresser à un enfant? Qu'est-ce que ça vous demande à vous?
La même chose qu'avec un autre partenaire. Si ce n'est qu'un enfant, il a, quand il a été bien choisi d'emblée, il a un naturel et une aisance. Et puis ils ont souvent une certaine forme d'intelligence, d'appréhension des scènes et... des rapports avec la situation. Après, justement, je pense que ça demande une écoute particulière, c'est-à-dire de les préserver dans le sens où, en dehors justement des moments de tournage, de vivre avec eux, de s'approcher d'eux quand il faut s'approcher d'eux, de ne pas s'approcher d'eux quand il ne faut pas s'approcher d'eux, pour justement préserver ce naturel et pas qu'il passe au-delà. Et, il fallait se trouver une connivence avec lui et en même temps, il ne fallait pas qu'on devienne ami, qu'on devienne copain. Et, parce qu'un enfant, ça se dissipe très vite aussi. C'est généreux, mais c'est généreux dans tous les sens. Donc ça peut se dissiper très vite. Donc il y a une rigueur à tenir. Ça dépend évidemment quel film on fait, mais ici, bon, il y avait beaucoup de rapports émotionnels entre le père, enfin intimes entre le père et entre un père et un fils dans un couple. Et donc voilà, mais c'est vraiment de laisser la parole, laisser l'aisance et laisser l'enfant prendre, donner la note et vous être disponible pour, ben pour suivre là où il va. Parce que d'emblée, souvent, ils vont là où il faut aller. Et si vous, vous essayez de les guider par votre jeu, ils ne suivent pas toujours. Donc c'est bien, mais ben maintenant c'est donnant-donnant, hein. Ça reste quand même un jeu entre deux personnes. Donc c'est s'écouter, se regarder et se répondre.
Il y a transmission aussi, parce que je vous pose cette question, parce que je sais qu'en répétant avec Jérémy Régnier ou Émilie Dequesne ou Morgane Marine, vous disiez « je les forme, je leur lègue ce que j'ai pu apprendre ». Il y a un effet de transmission quand on joue aussi avec ce type de partenaire?
Ils n'ont jamais joué. Et puis, bon, les frères Lardenne, ils ont un côté très formateur en aval de leur film. Donc, il y a beaucoup de répétitions avant, surtout quand ce sont des jeunes adolescents qui n'ont jamais joué. Donc, ils aiment les mettre dans les situations, pas dans les situations, dans les décors avant. Et ils demandent, moi, ils m'ont demandé avec Jérémy Régnier de l'accompagner. Parce que là, il fallait une connivence énorme entre les deux. Moi, ça m'amuse d'approcher les gens. C'est pour ça que je fais ce métier aussi. C'est pour approcher les gens, pour les décortiquer, les sentir physiquement, corporellement, les toucher. Et donc, j'avais besoin de ce contact, moi, déjà, pour créer cette connivence avec Jérémy. Donc là, ça a été très fort parce que on a... Mais c'est surtout pas cinéma. Hein. C'est vraiment dans la vie. On partait tous les deux en balade. Je lui ai appris à fumer.
Bravo.
Je lui ai appris à conduire. Et
bravo.
Enfin, des choses comme ça. Et on parlait de tout, de rien. On allait au cinéma, mais on... voilà, même pas dans les personnages. Mais quelque chose se dit. Et avec Morgan Marine, pour le fils, c'était différent parce que là, c'est l'assassin de mon fils. Donc là, je devais essayer d'être sympathique quand même avec lui sur le plateau. Et en même temps, tout de suite, je lui dis, écoute, on va essayer de... Tu m'approches jamais à plus d'un mètre. Mais c'était pas pour moi. C'était pour que lui, il ait tout le temps cette crainte. Et il a eu peur tout le temps, malheureusement. Bon, ça a dû être une douleur, quelque part, pour lui. Mais si j'avais... Je sais quel cinéma on fait aussi. Ça dépend quel film, encore une fois, hein, parce que c'est pas innocent. Mais si on avait été trop copains, je pense que ça aurait pas donné ce que ça a donné.
Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie Cléo? Parce que je sais que vous accompagnez au jeu des acteurs comme Mathieu Amalric ou Noémie Lvovsky. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Olivier Gourmet?
Par rapport à quoi, au jeu?
Justement, au jeu, oui, parce que vous-même, vous accompagnez au jeu des acteurs. Donc, je me demandais quel regard vous aviez sur ce qui venait d'être dit.
Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Mais
d'accord. En fait, non, mais j'ai l'impression de vous avoir passé une patate chaude.
Oui, non, je n'ai pas particulièrement... j'ai pas de grande réflexion sur le jeu d'acteur, tout ça.
Manu Farine.
Au moment du tournage, Olivier Gourmet, vous étiez blessé à la jambe, je crois, et une blessure dont le réalisateur Stéphane de Moustier dit qu'elle a été une sorte de point d'appui pour votre partition. Je sais pas, vous me regardez bizarrement, j'ai l'impression que je dis des bêtises, vous n'étiez pas blessé?
Non, mais c'est Stéphane de Moustier qui l'a dit, donc ce n'est pas moi, mais si, j'étais blessé.
Qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, est-ce que vous comprenez qu'ils disent que vous en ayez fait un point d'appui?
De toute façon, la magie du cinéma, c'est de servir des accidents. Au théâtre aussi, d'ailleurs. Les accidents sont parfois générateurs de choses auxquelles on ne s'attend pas et qui sont formidables. Donc là, j'avais une blessure à la jambe, il fallait l'intégrer. Donc on s'appuie dessus, oui, on vit avec et on l'intègre dans le personnage. Et peut-être qu'inconsciemment, elle vous apporte quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé, mais ce n'est pas encore une fois quelque chose de réfléchi. C'est un problème du moment qui génère quelque chose d'autre. Et je pense qu'il faut se servir de ça, parce que ce qui vient de on ne sait pas où... Souvent, c'est magique.
Alors, il y a chez vous, Olivier Gourmet, une façon de littéralement prendre le corps dans le cadre, une présence physique. Petite démonstration par le son, c'est un montage signé Thomas Beau, notre réalisateur.
3. Le garçon que t'as tué, c'était mon fils.
2.
Je vais affûter le ciseau, j'arrive.
1. Tire ! Pas non plus !
On l'a eu ! On l'a eu !
Ah oui, t'es un champion !
Pourquoi t'es venu aujourd'hui ?
Ben, pour te dire que...
Pourquoi aujourd'hui et pas un autre jour?
J'ai congé le mercredi.
Pourquoi ce mercredi-ci?
Tu sais garder un secret. Tu peux t'aider une seconde, tu veux? Cette nuit, on a plongé dans une scène de guerre. Ça puait la mort avec un paquet de questions sans réponse. On est obligé d'avoir une lecture politique là où le corps chasse le langage. Ce n'est pas du verbiage, c'est exactement ce qu'on va faire.
Et moi, je vais aller où?
Si une place se libère, c'est pour toi, mais pour l'instant, je peux te mettre nulle part.
Tu sais garder un secret.
Expliquez-vous! Quel est le problème? Tu as fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait?
Tu te calmes, oui!
Il est dans une autre école, il y en a plein! C'est mon travail, vous n'avez pas le droit!
C'est moi le patron, tu te calmes! Ça va? Tu te calmes!
Ça me touche, ça m'émeut, ça me plaît. Tu sais garder un secret.
Ferme la porte.
Et nous serons des tigres affamés dans la nuit noire.
Un montage où l'on entend des extraits d'Un ange, la mère, le fils, l'exercice de l'État, Rosetta, Terre battue. Une réaction, Olivier Gourmet, à ce que vous venez d'entendre?
Je suis surpris parce que vous parliez du corps avec des sons, donc c'est difficile à ressentir. Je ne sais pas quoi dire. C'est difficile par les sons de voir le corps.
C'est parce mais que nous, on a regardé les extraits, c'est
oui,
pour
alors,
ça.
Oui, vous avez regardé les extraits, donc j'entends, j'écoute la respiration, j'écoute le timbre de voix et je reconnais les moments et les époques, mais je ne fais pas vraiment de parallèle, moi, excusez-moi.
Je sais que c'est en faisant rire dans une scène de Molière au collège que vous avez trouvé votre voix. Il n'y a pas de référence culturelle chez vous, enfant. Vous dites que vous n'avez pas eu d'influence qui aurait été décisif quand vous êtes arrivé au conservatoire à Liège et que ça vous a tout de suite obligé à passer par le corps, c'est-à-dire?
Oui, parce que j'avais pas la compréhension des mots et je ne pouvais passer que par l'émotion. Et puis après, quand vous êtes d'abord traversé par l'émotion, tout à coup, vous vous rendez compte que les mots sont chargés de quelque chose et prennent sens. Parce que je ne comprenais pas ces phrases. J'avais du mal à me les mettre en bouche. Techniquement, j'y arrivais, mais ça sonnait creux. Alors oui, on me disait « oui, mais c'est musical aussi ». Je dis « oui, c'est vrai ». C'est vrai, parce que bon, je ne suis pas idiot non plus, mais je dis « mais moi, j'ai besoin d'y mettre quelque chose de charnel. J'ai besoin d'y mettre du sang, de la sueur, des os. La tragédie, pour moi, c'est des corps qui se tendent et qui ne peuvent pas se toucher parce que s'ils se touchent, ils explosent. Donc tout ça... Alors, vous pouvez tendre techniquement, mais demander à un danseur, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une âme derrière, il faut qu'il y ait un moteur, il faut être traversé de quelque chose. Et alors, les mots... Le verbe s'est fait cher, moi je dis toujours. Mais pour moi, oui, il y a quelque chose de ça. Je ne comprends mieux les mots que quand ils me traversent.
C'est étrange parce que justement, après le conservatoire, vous vouliez rejoindre Chérault à Nanterre, mais l'école avait fermé. Chérault avec qui d'ailleurs vous allez tourner plus tard dans Ceux qui m'aiment prendront le train. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous pour que ce soit vraiment un but au théâtre et plus tard dans le cinéma?
J'avais vu Dans la solitude des champs de coton et j'avais aimé comment les acteurs jouaient et comment était le spectacle. Et donc... Voilà, j'avais lu des interviews de lui où il parlait de l'acteur et il y avait quelque chose de enfin il y avait sans que lui ne le sache certaines affinités, certains points
de quel ordre pour vous justement
sur la formation de l'acteur, sur ce qu'est un acteur au cinéma, sur la dimension théâtrale et sur la forme théâtrale. Et donc j'avais envie d'aller là. Et voilà, malheureusement ça s'est pas fait et bon, mais j'ai pris un autre chemin et j'y ai trouvé mon plaisir aussi donc
C'est au conservatoire aussi, je crois, que vous rencontrez Luc Dardenne.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre Dardenne, avec qui vous êtes dites, nous avons échangé nos conceptions, elles étaient à peu près les mêmes.
C'était oui, ben c'est voilà.
Pareil sur le
Chérault, je ne l'avais pas rencontré, puis j'avais lu des choses et j'avais l'impression de... Pas que j'étais le pendant de Chérault, mais j'avais envie d'aller voir, j'étais curieux. Et Jean-Pierre, oui, parce qu'on était tous les deux jurys de conservatoire, jury extérieur. Parce qu'il y a le jury intérieur qui est composé des professeurs, et le jury extérieur de professionnels du théâtre. Puisque quand j'ai rencontré Jean-Pierre, j'avais jamais fait de cinéma et je faisais que du théâtre. Et donc on était amené, après les projets qu'on venait de voir, de discuter de la formation de l'acteur, de la pédagogie de l'école et de l'avenir des étudiants, où ils en sont là aujourd'hui et où est-ce qu'on voit, où on les voit arriver. Et donc on avait une sensibilité commune et des points communs de nouveau sur la formation de l'acteur et sur le jeu théâtral.
Pourquoi vous ont-ils filmé souvent de dos? La caméra pointée sur la nuque.
Ouais, là, eux, ils ont... Parce que la conscience est pour eux derrière et elle regarde et vous la portez. Et souvent, la douleur, elle se met là derrière dans la nuque. Enfin, moi, chez moi, je leur avais dit, je dis souvent... J'ai l'impression que les cicatrices de ma vie et les choses qui ressurgissent, elles viennent toujours se mettre là, derrière dans mon dos. J'ai une brûlure permanente ici. Et puis pour eux, la conscience, elle est derrière vous, elle vous regarde. C'est quelque chose. La conscience, elle est là et en même temps, elle est inconsciente, vous ne la voyez pas, donc elle est là derrière. Donc c'est pour ça qu'ils filmaient toujours par derrière. Et puis moi, il y avait un vieux fantasme où je leur avais dit j'aimerais jouer un spectacle de théâtre tout de dos. Parce que je pense qu'avec le corps, j'adore la danse aussi, donc je pense qu'avec le corps, on peut tellement raconter de choses et de manière sobre, épurée et simple. Je pense qu'un corps peut raconter autant que des mots. Et donc il y avait ce défi-là aussi de. Qu'est-ce qu'on raconte avec un corps? Comment est-ce qu'on vit avec un corps, avec la caméra? Donc c'était ludique pour moi avec Benoît Dervaux qui est le cadreur, parce qu'on tournait avec la Minima de Hatton, une toute petite, caméra avec laquelle on peut faire 360 degrés, descendre, faire des mouvements rapides, etc. Mais c'est toute une chorégraphie, parce que Sima de Dardenne, il est précis, il va sur un objet à un moment donné, il glisse, les personnages avancent, sont toujours en mouvement, il faut être, pour que le film s'imprègne d'une certaine force, il faut être au bon moment, au bon endroit, mais ensemble. Et donc la caméra devient un partenaire. Et c'est comme une chorégraphie, vous sentez comme un fil. Et y a ce plaisir-là. De toute façon, le jeu, ça doit être ludique. Il faut toujours trouver une forme de... Moi, j'ai besoin de m'amuser, de trouver des... pas des défis, être ludique.
Une farine.
À propos de corps et de dépenses physiques, hein, comme à tous nos invités, on vous a demandé d'apporter un son et vous avez choisi ceci. Identification du son, parce que c'est pas évident. Et pourquoi l'avoir choisi?
On n'avait pas identifié ce que c'était.
Ah si, bah si, nous on le sait.
Nous on le sait.
Mais l'auditeur.
Mais ce n'est pas une tronçonneuse, par exemple.
Non, ce n'est pas une tronçonneuse, non. C'est une disqueuse. Je sais pas, c'est bêtement, on m'a demandé.
C'est parfait, une meuleuse.
Une meuleuse, oui. En France, vous dites une meuleuse et chez nous, on dit une disqueuse. Donc c'est un disque, c'est une tronçonneuse qui coupe avec un disque. Voilà, mais oui, ce jour-là, on m'a demandé ça. Et comme je suis un bricoleur, je me lance dans des métiers, dans des transformations, etc. Et j'aime faire beaucoup de choses moi-même. Donc ce jour-là, je venais de meuler. On ne voyait plus à travers mes lunettes. J'ai dû changer les verres parce que j'en ai tellement pris que les verres étaient complètement matifiés. Et voilà, et ça m'est venu comme ça, parce que je dis, voilà, c'est un son que je viens d'entendre là pendant 3 jours, et je l'avais toujours là, et ça m'est venu comme ça, et je dis pourquoi pas ce son-là. Donc,
Vous avez toujours une activité manuelle à côté du travail d'acteur ?
Oui, mais c'est pas une décision, c'est parce que j'en ai besoin. Il y a des gens qui vont courir, qui vont faire du sport, et moi j'ai besoin de travailler manuellement. Ça me fait du bien, ça me détend, ça me permet de faire autre chose et puis ça me fait connaître un autre univers, une autre façon de faire, d'être, une autre rigueur, enfin plein de choses. Voilà.
Pour préparer le rôle du film de Stéphane de Moustier, qu'est-ce que vous avez entrepris ? Parce que je sais que vous travaillez très en amont ces rôles.
Oui, alors là, sur celui-là, c'est le mauvais film pour en parler parce que...
Il n'y a pas de travail.
Je prépare beaucoup quand... Si, je lis beaucoup, je parle beaucoup avant, enfin beaucoup... Je pose beaucoup de questions, enfin les questions que j'ai, parfois idiotes, mais le ridicule tue pas, et en posant des questions parfois qu'on avance. Donc je pose des questions, j'aime bien de rencontrer le réalisateur et de faire une lecture, traverser le scénario ensemble et de m'arrêter là où moi j'ai envie de m'arrêter, et où lui aussi parfois a envie de s'arrêter, parce qu'à lire ensemble, ben, on s'entend, on s'écoute, déjà on entend le texte, et puis on apprend à s'apprivoiser, à sentir ce qu'il veut, davantage qu'à travers le scénario.
Et dans ce cas-là, donc,
c'est un échange.
Film, ouais.
Donc il y a tout ça. Et puis, je prépare souvent quand il s'agit d'un personnage qui a une fonction et que cette fonction est quelque part en soi un personnage dans le film. Le fils, par exemple, il est menuisier. Il y a une précision dans le film, presque documentaire, sur le métier de formateur de jeunes en menuiserie, donc avec des gestes précis, des machines, etc. Et j'aime bien pouvoir les manier moi-même, le faire moi-même. Si je dois faire un tel l'objet dans le film, je le fais moi-même. En plus, j'adore ça, c'est pas pour rien. Ils ont hésité entre cuisiner parce qu'ils adorent, ils savent que j'adore cuisiner, mais ils n'ont pas choisi cuisiner parce qu'ils avaient peur que les couteaux soient tout de suite trop menaçants et des choses comme ça. Mais ça aurait pu être plafonneur, ça aurait pu. Donc là, je prépare parce que il y a une fonction. La fonction est un personnage. Ici, on a un personnage en quête. Il vient de perdre son emploi, et il recherche. Il est dans une forme de dynamisme, dans une forme de cynisme. Et ça, j'avais pas besoin d'aller voir. Je vois. Je travaille tous les jours. Je regarde les gens. J'écoute. Je lis. J'essaie de rester dans le monde pour me tenir informé. Des choses comme ça. Donc là, j'avais pas ça vraiment à préparer. Il n'y avait pas quelque chose de physique précis à préparer. Donc voilà. Il y a eu une autre sorte de travail, mais pas celui dont vous sembliez vouloir parler.
Le rendez-vous, la chronique.
On vous retrouve dans quelques instants, Olivier Gourmet et Stéphanie Cléo, mais tout de suite, c'est la chronique cinéma du mercredi de Jean-Marc Lalanne. Ce soir, des livres et une rétrospective, John Ford, à la Cinémathèque de Paris.
Monument du cinéma classique américain. Alors, c'est une rétrospective énorme qui a commencé la semaine dernière, qui se poursuit jusqu'au 23 février. C'est pas une intégrale, c'est-à-dire que John Ford, il a réalisé 143 films, mais il y en a une cinquantaine qui a été perdue. L'œuvre, elle couvre en fait 5 décennies, et ce qui a été perdu, c'est les films qu'il a réalisés au temps du muet, de 1917 à la fin des années 20. Et donc ça laisse quand même 80 films qui vont être présentés, dont certains vraiment quasiment invisibles, très très rares, comme ces films pour la télévision. Alors ce qu'on peut dire de cette œuvre, c'est que dans l'esprit des gens, elle se confond avec un seul genre du cinéma, alors qu'elle est vraiment tentaculaire. En même temps, John Ford, c'est le western, c'est John Ford. Et bien, c'est pas tout à fait vrai. Et ce que par exemple on oublie, c'est que John Ford a commencé par le western, mais le western est un genre qui est tombé totalement en désuétude dans les années 30. Et le moment où John Ford devient un des plus importants cinéastes américains, il fait autre chose que du western. Il fait du film social contemporain. C'est par exemple Le Mouchard, ou Les raisins de la colère d'après Steinbeck, ou Quelle était verte ma vallée, sur une famille de mineurs. Et ce qui est très très paradoxal, c'est qu'il va gagner 4 fois l'Oscar du meilleur réalisateur, ce qui en fait un record absolu à Hollywood, mais en même temps jamais pour un western. Donc c'est assez ironique, parce qu'en même temps, ce qu'il y a de plus grand, ce qui fait de lui une sorte de Ulysse du cinéma hollywoodien du XXe siècle, c'est quand même le western. Et alors moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette œuvre vraiment immense et tentaculaire, c'est plutôt la dernière partie, le Ford tardif de la fin des années 50, après La prisonnière du désert, qui est généralement considéré comme son chef-d'œuvre, qui n'est pas, moi, mon film préféré. Moi, par exemple, j'adore Les Deux Cavaliers, qui est un film de 61, où il y a un plan sublime, un des plans qui m'a le plus ébloui l'histoire du cinéma, où on voit James Stewart et Richard Widmark, qui sont shérifs et soldats, qui tout à coup s'assoient près d'une rivière et se mettent à parler. Et c'est un plan fixe, assez éloigné. On a l'impression que Ford laisse tourner la caméra. Ça dure plusieurs minutes, ce qui en 61 dans un film hollywoodien est énorme. Et on a vraiment l'impression que c'est le film qui s'assoit sur la rivière, qui suspend son action. Et comme si Ford, qui n'avait probablement pas vu les films d'Antonioni en 61, mais avait eu la prémonition de la modernité, et il suspend son récit, il suspend l'image action pour cette espèce de stase qui est vraiment un moment de cinéma magnifique. Il y a aussi l'année d'après Liberty Valance.
En 62.
En 62, qui est un film très très fort, parce que la marque de John Ford, c'était plutôt la picturalité, la couleur, et tout à coup, dans un espace extrêmement étréci, pas du tout des grands intérieurs, pas du tout des paysages, et en noir et blanc, il fait quelque chose qui ressemble à la télévision de l'époque. Donc ce qui est très beau chez Ford, c'est ce mélange d'archaïsme, le côté grotte de Lascaux du cinéma américain, et en même temps, une très grande porosité à ce qui fait la modernité. Alors ça, c'est la rétrospective. En même temps, il y a plein de livres, dont un qui est génial, d'un grand historien du cinéma qui s'appelle Tag Gallagher. Et ce qui est passionnant, ça s'appelle John Ford, l'homme et ses films. Et c'est qu'il va sans arrêt de l'œuvre au personnage. Et ce qui est passionnant, c'est tout ce qu'il dit sur la complexité politique de John Ford, qui était un homme plutôt très, très conservateur, mais qui a fait quand même des coups d'éclat incroyables, comme par exemple, après la Première Guerre mondiale, il va prendre la défense des victimes de la chasse aux sorcières, de la chasse au communisme à Hollywood. Il va s'opposer à l'extrême droite et à Cécile B2000 pour défendre la frange la plus progressiste d'Hollywood. Donc c'était comme ça un homme très complexe. Et Gallagher montre comment ça travaille aussi l'œuvre, cette complexité. Il dit un truc très beau. Il dit que si on est un libéral et un modéré, on préfère Howard Hawks, qui est le grand rival de John Ford, mais que si on est soit très conservateur, soit très marxiste, eh bien on préfère John Ford. Mais moi, je pense que quelle que soit sa sensibilité politique, il faut absolument s'immerger dans l'œuvre de John Ford.
Stéphanie Cléo, vous êtes de quel bord ?
Moi, je suis plutôt Hawks, en fait. Ah. Et du coup, je découvre Ford, j'y suis allée...
C'était à la Cinémathèque ?
Oui, je suis allée voir Rio Grande.
Alors, le verdict ? Qu'est-ce que vous avez vu ?
En fait, c'était la première fois que je voyais un western sur grand écran, parce que je l'ai toujours vu à la télé chez Eddie Mitchell, et voilà. Donc, mais je vais y retourner, parce que oui, moi, je suis très, très, très Hawks, voilà. Donc, sur l'héroïsme de M. Hawks. Puis les femmes chez Hawks, j'aime beaucoup aussi.
Olivier Gourmet, de votre côté ? John Ford ? C'est un cinéma qui vous parle, le western ?
J'aime les deux, oui. Je les ai tous vus aussi, à dernière séance. Mais, et j'adorais ça, Richard Widmark et Steve McQueen. Et à une époque, c'était mes idoles. Et je ne voyais que des films à la télé. Et souvent, c'était des westerns le dimanche soir, parce qu'on avait le droit de la regarder seulement à certains moments. C'était souvent des westerns. Donc oui, j'aime beaucoup. Mais les deux, moi, donc autant.
Le rendez-vous. Rendez-vous.
Plateau Classe Moyenne avec vous, Stéphanie Cléo, metteur en scène, scénariste, actrice aussi, puisque vous aviez joué dans La Chambre Bleue, le film de Mathieu Amalric sorti l'année dernière. Et c'est Mathieu Amalric que vous mettez cette fois en scène au théâtre dans Le Moral des Ménages. C'est au théâtre de la Bastille à Paris. Et pour votre première mise en scène, eh bien, vous avez choisi non pas un texte de théâtre, mais vous avez choisi d'adapter le roman d'Éric Reynard publié en 2002, qui est donc Le Moral des Ménages. Alors, Manuel Carsen était interprété par Mathieu Amalric. Il est chanteur, il évoque sa famille, son enfance, son présent de père et d'époux. Il parle surtout de ses parents, des Français moyens, de la classe moyenne dans les années 70. Son père humilié par ses collègues de bureau, sa mère qui sert invariablement le gratin de courgettes en le rationnant sur le camembert. Et c'est un thème qui revient, un motif qui revient dans la pièce et dans le roman. Extrait. Non, c'est pas du tout ça, donc on va s'asseoir sur l'extrait, parce que c'est autre chose qui est parti, je ne sais pas. Des cow-boys, des
Sacha
Indiens,
Guitry peu importe.
C'est Sacha Guitry qui est parti, en effet. Donc on va dire que c'est un texte dur, même si on n'a pas l'extrait, sur la transmission, l'humiliation, le couple, la middle class, sur la monstruosité des ménagères de la classe moyenne qui, je cite, « détruisent leurs maris qui participent de la crise économique puisqu'elles épargnent au lieu de consommer ». Qu'est-ce qui vous a intéressé et attiré dans ce roman pour votre première mise en scène, alors qu'au départ, c'était plutôt du côté de Cendrillon, un autre roman d'Éric Reynard, que vous étiez parti ?
Alors non, je ne suis pas partie du... En fait, j'ai lu Cendrillon à sa sortie et du coup, j'ai beaucoup aimé ce dont parlait Reynard et son écriture, qui s'emballe, qui peut partir dans ses histoires d'automne, d'inconnus, voilà. Et après, en fait, j'ai lu Le Moral des Ménages 5-6 ans après et en fait, j'ai retrouvé des motifs qui m'avaient beaucoup touchée dans Cendrillon, notamment ce milieu familial sclérosé avec le père humilié, le fait qu'il ait voulu être pilote et qu'il n'a jamais réussi. Enfin, voilà. Et le fils qui veut se sortir de tout ça et il veut s'en sortir par la fiction. Alors, voilà, dans Cendrillon, il devient écrivain. Puis, bon, dans Cendrillon, il y a tous les avatars de ce qu'il aurait pu devenir avec ce même moule familial. Mmh. Et donc là, dans Le Moral des Ménages, donc, qui est antérieur en fait, à Cendrillon, ça lui a servi de matrice en fait, pour écrire Cendrillon, Le Moral des Ménages. Voilà, il y a ce personnage, Manuel Carsen, qui décide de devenir chanteur. Et voilà, donc il y avait ces motifs-là, moi, qui m'ont plu. Et puis, il y avait aussi la construction du roman, qui, en fait, voilà, c'est un long monologue de ce Manuel Carsen. Et puis, bon, à la fin, il y a une espèce de volte-face où il y a une nouvelle génération qui prend la parole. Et puis, d'un seul coup, bah, tous les repères sont un peu bousculés et on ne sait plus trop. On se dit, oui, mais alors, en fait, tout le monde a peut-être un peu ses raisons, enfin voilà. Et puis il y avait la langue en fait d'Éric Reinhart qui, pour moi, était assez évidente. Il y avait une oralité assez évidente, voilà. Donc c'est toutes ces raisons-là qui m'ont
poussé vers ce texte. Lucille Comeau.
C'est un texte qui est très noir, qui est vraiment ironique, voire cynique par moments. J'ai été surprise de voir hier soir que le public rit beaucoup pendant le spectacle. Je crois que les critiques d'ailleurs se font le relais. Est-ce que ça vous gêne alors même que Mathieu Amalric raconte dans une interview que vous lui aviez demandé de moins faire le show pour justement essayer de baisser un peu le ton? Est-ce que ça vous gêne ces rires-là?
En fait, non, moi ce qui me gêne, c'est à partir du moment où les acteurs, parce que oui, alors ça Mathieu le raconte à chaque fois, parce qu'à la deuxième, en fait, quand on a joué au 104, donc il y a eu la première, donc il y avait du public et les gens ont ri, donc c'est toujours un effet comme ça. Donc alors évidemment à la deuxième ils y sont allés un peu plus, enfin bon, en même temps le spectacle n'offre pas beaucoup de possibilités de faire le cabot, mais quand même un petit peu. Et puis comme le texte est un peu sur un fil comme ça, ça peut être un peu voilà, c'est comme le texte est très trivial. Et donc, je leur avais demandé de vraiment rester au premier degré, surtout pas être dans le jugement de ce qui joue. Voilà, puisque ce n'est pas du tout un spectacle à charge, en fait. Malgré ce que raconte le Manuel Carsen, il y a quand même le pendant avec sa fille. Et voilà, puis moi, je m'identifie en fait un peu à tout le monde dans ce spectacle, et la fille, et la mère.
Alors justement, aux côtés de Mathieu Amalric, il y a une seule comédienne, c'est Anne-Laure Tondu, qui prend en charge tous les rôles féminins, la maîtresse, la fille convoitée au lycée, la mère. À quel moment ce choix d'une seule actrice s'est imposé pour vous, Stéphanie Cléo?
Bah en fait, c'est la première idée que j'ai eue en lisant le roman. En fait, je suis un peu partie à l'envers, mais c'est vrai que quand j'ai lu le Moral des Ménages, ce monologue de fin, bah du coup, m'a éclairé un peu sur la mise en scène, sur la construction de ce que j'avais envie de faire pour un plateau. Et j'ai tout de suite eu cette idée que ce serait la même actrice qui ferait toutes les femmes. Voilà, ça me plaisait assez. Finalement, le spectacle est vraiment construit sur entre le fantasme et le réel. Enfin voilà, ce personnage, il a quand même un gros problème avec le quotidien, la réalité. Donc, il se raconte des fictions, des histoires. Donc, j'aime bien que ce ne soit pas des personnages en fait sur le plateau, mais plus des figures qui soient convoquées par Manuel Carsen. Quoi.
Lucille.
Pour vous, le théâtre est arrivé en chemin dans votre parcours qui a commencé d'abord par une formation à l'école du paysage de Versailles. Qu'est-ce que vous cherchiez dans cette formation-là?
J'ai surtout plutôt une formation de géographe à la base, parce que j'ai pas fini l'école du paysage, hein, j'y suis passée, mais bon, ça, je pense que ça a été très important après parce que comme c'est vraiment des histoires d'organisation de l'espace, et tout ça, bon, c'est avec des plantes, c'est pas avec des acteurs, c'est pas du tout la même chose, mais...
Bien joué.
Mais... Bon, voilà, je sais que ça a été très important parce que c'est une école après qui est très ouverte. On prend des cours de danse, des trucs, des machins. Bon, voilà, donc c'est vraiment sur. Il y a des scénographes qui interviennent beaucoup. Et
aujourd'hui, on retrouve quelque chose de ça dans votre façon de concevoir la scène, pour cette première mise en scène d'ailleurs.
Oui, je pense que du coup, j'ai gardé des méthodes de travail de l'école. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on travaille sur un site. Il nous avait dit vous prenez votre petit calepin et puis vous collez tout ce que vous lisez, tout ce que vous prenez des notes de tout ce que vous rencontrez au moment vous travaillez sur ce projet et puis petit à petit ça va vous construire un peu comment vous allez appréhender cet espace, etc. Moi j'ai un peu l'impression de travailler un peu comme ça au plateau aussi par petites étapes. On a travaillé beaucoup par une semaine, ensuite on faisait une pause de 6 mois, une semaine.
Une pause de 6 mois. Pendant la construction.
Oui, on a
pendant le travail même d'adaptation, alors j'imagine.
Oui, Oui, oui. Et en fait, ça me va très bien comme façon de travailler.
Lucille ?
Pourquoi pour une première mise en scène, même si vous avez déjà travaillé comme assistante d'autres metteurs en scène, avoir choisi un texte, un roman, plutôt qu'un texte de théâtre ?
Parce que, en fait...
Je n'aime pas le théâtre. Les textes ne me conviennent pas.
Non, mais en fait, je suis venue un peu... les gens qui m'ont donné envie de faire des spectacles, c'est surtout les gens de danse. Quand j'étais adolescente, j'ai vu le spectacle de Maggie Marin et de Joseph Nadj. C'est vraiment ces deux spectacles-là qui, pour moi...
Qui sont porteurs, d'ailleurs, d'une dimension théâtrale. Surtout ces
Nadj. Oui, oui, oui.
Mais... Et le Maybe aussi, bien sûr, de Maggie Marin.
C'était Le Cri du Caméléon et Maybe, voilà. Donc c'est vraiment ça. Et après, je lisais beaucoup de théâtre, mais chez moi, dans ma chambre. Et j'ai toujours eu un rapport difficile avec le théâtre classique. J'ai toujours été plus du côté de la danse et de la danse contemporaine. Et c'est vrai qu'après, après l'école de paysage, je suis allée à la fac de théâtre. Parce qu'en fait, je ne voulais pas faire du paysage. Je ne voulais pas être derrière un ordinateur. Et donc, je suis allée à la fac. Et là, j'ai rencontré Jean-François Perret, qui était mon prof et qui m'a proposé de devenir son assistante. Et c'est vrai que lui, il ne travaille pas sur des textes théâtraux du tout. C'est plutôt des textes de philo ou avec des scientifiques, etc. Et en fait, je trouve que le fait de travailler sur des textes qui ne sont pas théâtraux, ça m'alimente un vrai questionnement sur... qu'est-ce que c'est que le théâtre ? J'ai l'impression de... Enfin, c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de faire vraiment du théâtre avec des textes qui ne sont pas de théâtre. Je crois que je serais très empêtrée avec un texte théâtral.
Olivier Gourmet, pourquoi vous en avez fini avec le théâtre ? Alors même que vous aviez commencé par cela, est-ce que véritablement le cinéma a tout comblé pour ne pas remonter sur scène depuis des années ?
Oui, le cinéma a comblé, c'est clair. J'ai toujours voulu faire ce métier pour le plaisir et j'y rencontre mon plaisir. Donc il est comblé. Après, sur la forme, et c'est un autre débat, mais c'est une autre façon de vivre aussi. Moi, je vais parler...
Pragmatique.
Pragmatique, puisque vous me posez la question. Je suis quelqu'un qui était habitué à travailler. Je suis né dans une ferme, donc à se lever tôt. Et à travailler la journée, et même parfois le soir et la nuit, parce que ça demande parfois d'être là la nuit. Et ce que j'ai toujours aimé au théâtre, c'est le moment de la création et des répétitions, c'est-à-dire où on cherche, où on se frotte à l'auteur, où on se frotte au texte, où on se trompe, où on réussit, où on a du plaisir, et où on recommence, et puis ça marche, et puis ça marche plus. Tout ce processus-là, c'est ce qui m'excitait le plus. À partir du moment où on montait sur scène, j'avais un plaisir de jouer, évident, mais ce n'était pas ce que je préférais. Et le cinéma, quelque part, est une forme perpétuelle de répétition. Puisqu'à un moment donné, le réalisateur dit « c'est bon ». Vous dites « ah bon ? On n'en referait pas une ?» Je ne suis pas comme ça, mais... Donc on est toujours en espèce de répétition. Alors c'est beaucoup plus frustrant que le théâtre. Parce que le théâtre, on va quand même au bout de quelque chose. Et finalement, on décide qu'il y a une finalité et qu'il y a une première, une générale, une première. Et puis le spectacle va sur les rails et évolue souvent avec les représentations. Voilà, il y a cette frustration-là au cinéma, c'est de ne pas pouvoir aller toujours là où on voudrait aller. Mais on se fait une raison. Pragmatiquement, c'est de fait, oui, j'habite la campagne et on me propose de jouer au théâtre. Et j'y retournerai probablement si j'habitais Paris ou Bruxelles. Mais partir un an de chez moi pour faire du théâtre en France, c'est pas possible. Je ne peux pas déraciner tout le monde. Et moi, je ne peux pas ne pas repartir aussi souvent que cela. Et à Bruxelles, moi, me taper tous les jours les embouteillages le matin et le soir pour aller répéter.
C'est vraiment pragmatique. En effet.
C'est un peu pour ça que je n'en fais pas pour le moment. C'est vraiment une question de position géographique.
Lucille.
Stéphanie Cléo, on vous a aussi demandé de nous apporter un son. On l'a un peu défloré tout à l'heure, mais on l'écoute tout de suite.
Dites-moi, Marie.
Quoi donc, Claude ?
Regardez bien la route en ce moment. Quand je ne vais pas plus vite que ça en conduisant, ça ne vous donne pas l'impression d'être au cinéma ?
Si, c'est très juste,
n'est-ce pas ? Et savez-vous comment les gens de cinéma s'y prennent pour faire ça ?
Non.
Eh bien, il paraît qu'ils mettent tout simplement leur appareil dans la voiture.
Mais c'est possible.
Oui, il paraît.
Mais les paroles qu'on entend ?
Eh bien, on m'a dit les paroles qu'on les a enregistrées ensuite au studio.
C'est bien invraisemblable.
D'ailleurs, je dois vous avouer franchement, je ne l'ai pas cru.
Identification de ces deux sons, donc, est la raison pour laquelle vous les avez choisis.
Alors, le premier extrait, c'est tiré d'un film de Sacha Guitry, Bonne chance. Et puis le deuxième, enfin juste la petite musique, là, c'est Elle et lui de Léo McCarey. Et en fait, c'était, voilà, quand on m'a demandé un son, c'était hier, alors j'ai un peu paniqué, mais du coup, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était, bon, alors, c'est pas très gay, mais c'était l'enterrement d'Alain René. Et en fait, ces extraits de films ont été projetés au moment de la cérémonie, en fait, dans l'église. Voilà, où a eu lieu, bref. Et donc, il y a eu ces deux extraits-là, et c'était très beau. Puis je trouvais que c'était un très très bel hommage à Alain René, puis sur ce côté de l'amusement avec le cinéma. Et voilà, enfin, c'est assez irrésistible, cet extrait de Sacha Guitry.
À propos de cinéma, vous avez participé à l'écriture du scénario de La Chambre Bleue, réalisé par Mathieu Amalric. Vous étiez vous-même à l'écran, un premier rôle marquant, puisque vous étiez nu dans une bonne partie du film. Est-ce que ça a été difficile pour une première expérience d'apparaître comme ça, justement, exposé sur un écran, Stéphanie Cléo ?
Nu ?
Oui, et même exposé en tant qu'actrice durant tout le film. Mais même cette question de la nudité, alors même que c'était la première fois.
Non, alors là, bizarrement, dans la question de la nudité, non. Parce qu'en fait, avec Mathieu, on a travaillé sur le scénario ensemble. Donc, on a co-adapté le livre ensemble, tout ça. Donc, j'avais une grande familiarité, du coup, avec tout ce qui se racontait. Et c'est vrai que Mathieu m'a demandé par quoi je préférais commencer, comme je n'avais jamais joué. Et c'est vrai que c'est moi qui lui ai demandé de commencer par les scènes de la Chambre Bleue, bizarrement. Après, je pense que, j'ai pas de problème avec cette histoire de nudité et tout ça. Peut-être aussi par rapport aussi à un rapport à la danse et c'est vrai que sur les plateaux, les gens sont nus ou je sais pas quoi. Bon, là, comme ça me semblait, vu l'histoire, etc. Je ne voyais pas faire des chichis pour ça. Après, j'ai quand même une doublure pour un moment, un seul, voilà. Mais ça ne m'a pas posé de problème. Après, l'exposition en tant qu'actrice m'a posé plus de problèmes. Enfin, une fois que le film a été projeté, là, quand même, je me suis dit merde. Voilà, j'ai trouvé ça. J'ai beaucoup aimé jouer, ça m'a beaucoup plu, mais le résultat m'a un petit peu dépassé quand même. Je sais pas. Enfin bon, en même temps, le spectacle n'offre pas beaucoup de possibilités de faire le cabot, mais...
Mais si on avait été trop copains, je pense que ça n'aurait pas donné ce que ça a donné.
Merci à nos invités. Olivier Gourmet, Terre battue, sortira en salle mercredi prochain. Stéphanie Cléo, Le moral des ménages, c'est jusqu'au 20 décembre au Théâtre de la Bastille, à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain... Et oui, Jean-Marc, demain du théâtre avec Isabelle Adjani et du cinéma avec Régis Varnier. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Aïssat Wendoy, Adrien Nasselli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture en Zoé Sfès, chronique cinéma Jean-Marc Lalanne, à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan et Clément Berman, et à la réalisation Thomas Beau.